Ce soir, on va commencer une série sur l'identité. Donc, je vais commencer à décrire quelques bases dessus parce qu'on va y revenir à plusieurs reprises les samedis suivants. Et donc, je vais établir quelques bases assez générales, mais ça ne m'empêchera pas de venir dans des choses aussi très très concrètes. Mais pour présenter en fait ces bases-là et donc sur l'identité et de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, eh bien, on a besoin de savoir qui l'on est. Tu peux pas faire quelque chose que tu n'es pas. Fondamentalement, c'est ça. Et pour ça, en fait, si vous vous rappelez bien, au début de l'année, je vous ai partagé la vision en fait du groupe, ce que c'était Cosmos, la signification de ce nom-là et la vision dans laquelle on était appelé à rentrer. Je vous l'ai expliqué, mais pour pouvoir rentrer pleinement dans cette vision, on a besoin de savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, ça avancera pas, ça servira à rien. On a vraiment besoin de savoir ça. Donc, je vais poser quelques fondements là-dessus et je vais revenir en fait sur un petit peu quelques fondements que j'avais déjà posés auparavant dans un message précédent qui traitait des besoins. Et donc, on va parler un petit peu des besoins. Et donc, pour ça, je vais revenir sur quelques points que j'avais déjà expliqués. Mais pour se rafraîchir la mémoire, on en a besoin. Et puis après, on va pouvoir aller dans des applications très concrètes pour notre vie. Donc, la question, c'est: sais-tu qui tu es? Je vous la pose cette question. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Alors, comment on se définit? Bah, il y a ton nom, ton prénom, ok. Il y a ta nationalité, tes origines, tes parents, tes frères, tes sœurs. Mais ça, bon, finalement, ton nom, ton prénom, c'est pas toi qui l'as choisi. Est-ce que ton nom, ton prénom te définit? Pas forcément. Alors on va y revenir. À l'époque juive, il y avait des significations très très précises sur les prénoms, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais donc, sur la question de l'origine, de la nationalité, aujourd'hui on peut se dire, ben oui, on vient d'ici ou d'ailleurs, voilà quoi. Nos parents, ben, ils vont nous définir un peu, ils vont nous influencer tout du moins, ça c'est sûr. Il y a d'autres choses aussi qui nous définissent et qui sont spécifique à nous, c'est notre personnalité, nos goûts. Il y a aussi nos choix. Et puis, il y a aussi les autres, nos amis. Nos amis ont d'ailleurs une influence très très grande sur nous, parfois même plus grande que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que bien choisir ses amis, c'est important. D'ailleurs, la Bible en parle de ses amis. Des amis, de ce que c'est qu'un ami, un ami fidèle à notre cœur, c'est une bénédiction. Et on a besoin d'amis. Alors, ça, c'est des choses qui nous définissent. Donc, notre personnalité, nos choix, les personnes pour lesquelles on est proche, chacun, c'est unique à chacun. Donc, chacun, vous êtes unique. Vous êtes tous différents. Vous avez chacun votre personnalité, chacun vos goûts, vous avez chacun fait des choix et vous avez chacun des amis spécifiques. Ça, c'est unique à vous. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais qui sont pas essentiels. Donc ça, c'est pour qui on est. En fait, je vous pose cette question-là, pas parce que vous le savez pas, mais juste pour que vous gardiez bien ça en tête, parce qu'après, je vais vous poser une petite question et gardez bien ça en tête. Alors ensuite, c'est quels sont nos besoins? Parce que finalement, comment on va être défini, ça va aussi dépendre un peu de nos besoins, d'accord? Et alors, il y a cette pyramide-là, que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà vue, en fait, c'est Maslow qui l'a établie. Alors, il l'a établie en 1970 et son but, lui, c'était de savoir qu'est-ce qui motivait les hommes. Et pour ça, du coup, il a établi des besoins fondamentaux, du plus le besoin physiologique là qui est tout en bas, du plus fondamental et au fur et à mesure qu'on monte, c'est de moins en moins fondamental, mais c'est quand même essentiel, d'accord? C'est comme ça qu'est présenté. Donc, on a le besoin physiologique, besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime, besoin de s'accomplir. Tous ces besoins-là, à la base, parce que tout ça, hein, vous êtes d'accord avec moi, alors je vais détailler un peu ce que c'est, mais tout ça, c'est des choses dont on a besoin. Sauf que, dans le plan de Dieu, c'était pas des besoins, ça. C'était des privilèges. Et ça, c'est la Genèse qui nous le communique. Et ces privilèges-là, en fait, c'est devenu des besoins. Pourquoi? Parce que le péché est venu dans l'humanité. je vais décrire ces besoins-là et je vais décrire pourquoi, en fait, c'est devenu des besoins. Le besoin physiologique. Alors, on a tous besoin de nourriture, de sommeil, de respirer, d'être en santé. OK? Tout ça, c'est lié à notre physique. OK? On en a tous besoin. Donc ça, je vais pas aller plus loin que ça. Bien que, quand on regarde dans le jardin d'Éden, et qu'on s'intéresse à la Genèse, là, au premier chapitre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, il y avait tout, hein. L'homme, il avait juste à tendre le bras, il cueillait, hop, il mangeait, tranquille. On disait, même avant, il n'avait pas besoin de travailler la terre, il n'avait pas besoin de faire d'efforts, parce que il était directement, il avait ça. Pourquoi je dis ça? Parce que juste après, la malédiction, c'est qu'il va devoir suer, et c'est par son effort, un effort physique important, qu'il va pouvoir tirer des fruits de la terre. On a aussi tous besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la sécurité, en fait, on a peur. On a tous besoin de sécurité. Sécurité dans chez soi, dans le pays dans lequel on est. On a besoin de se sentir en sécurité dans notre travail, dans notre école, ici même. On a besoin de se sentir en sécurité. Parce que si on ne se sent pas en sécurité, tout le reste, ça passe à l'as. Hein. Et vous ne m'écouteriez même pas si vous ne vous sentiez pas du tout en sécurité. Donc tout ça, c'est fondamental. Mais ça, encore une fois, cette sécurité-là, on l'a perdue. Pourquoi on l'a perdue? Parce que, en fait, Dieu avait dit à la base, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Il nous avait donné la domination. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est dominant qui va avoir peur? Non. Prenez dans la nature. Est-ce que le lion, il a peur de la gazelle? Ah, il a pas peur. Hein. Lui, il est là, il voit la gazelle et... rien à faire, hein. La gazelle, elle peut se balader, et moi je vais la croquer après, et le lion, il est là, hein, il a pas besoin de forcer. Il est tranquille. Il est en sécurité parce qu'il y a rien qui lui fait peur. Et Dieu avait donné ça à l'homme. Mais il l'a perdu. Aussi. On a besoin de sécurité aussi dans nos relations avec les autres. Dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, on a besoin de cette sécurité-là. Et cette sécurité-là, en fait, est très liée à l'autorité qu'on avait, parce que Dieu nous donnait l'autorité de dominer sur la nature, de dominer sur toute chose, mais du fait qu'on ait perdu cette autorité-là, on n'est plus en sécurité. Je vais revenir après. Mais gardez bien ça en tête aussi. Autre besoin aussi. On a le besoin d'appartenance, donc le troisième. Celui-là, en fait, ça décrit le besoin d'affection qu'on a des autres. On a besoin d'être aimé, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'avoir des personnes qui sont autour de nous, dont on sait qu'on nous aime. Et l'homme avait de l'affection de Dieu, il avait cette affection-là de Dieu, puisqu'il était créé par Dieu, c'était la volonté de Dieu d'une part, mais en plus il était en communion avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, c'était ça. Dieu et l'homme, ils pouvaient communiquer, bonjour, bonsoir, salut, ça va, pas de problème pour ça. Et d'ailleurs, Dieu avait remarqué aussi que sur le besoin d'appartenance, elle n'était pas qu'au niveau entre Dieu et puis l'homme, mais aussi au niveau horizontal. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et Dieu créa la femme. Donc non seulement au niveau de cette relation verticale avec Dieu, mais aussi au niveau de cette relation horizontale. Donc on a besoin des uns des autres. Et vous le savez bien, puisqu'on a tous besoin des amis. Mais ça aussi, avant, c'était un privilège. Maintenant, c'est devenu un besoin. Pourquoi? Parce que nos amis, ils sont parfois faillibles. Les relations qu'on peut avoir avec les autres, c'est parfois faillible. La relation qu'un homme peut avoir avec une femme ou une femme peut avoir avec un homme, elle est parfois faillible. Entre nos amis... on peut avoir cette confiance-là en nos amis et waouh, c'est super que d'avoir des amis en qui on a confiance, des amis sur lesquels on peut s'appuyer. Si ça va pas bien, moi je sais que je peux m'appuyer sur telle ou telle personne. J'ai des amis, ils sont chers à mon cœur. Je sais que si j'ai un besoin, je demande à Aurélien, il est là quoi. Ça c'est un ami qui est cher à mon cœur. Si j'ai un problème, j'appelle Natou. Il est là aussi, pas de problème. C'est un ami qui est cher à mon cœur. On a besoin d'amis. C'est vraiment essentiel. Mais c'est pas toujours facile d'avoir des amis et on les recherche parfois plus que tout. On le recherche parfois dans nos relations. Et parce que justement, on a peur de pas être aimé, on a peur de manquer de cet amour-là, de l'affection des autres, qu'on est prêt à faire parfois certaines choses qu'on ne voudrait pas faire. Parfois, on est prêt, alors qu'on recherche des amis, à, en gros, ne plus se reconnaître soi-même. Et ça peut devenir très vite dangereux. Parce que si tu as des amis qui t'amènent à changer qui tu es, toi, ou à faire des choses auxquelles tu ne crois pas, waouh, ça, c'est des amis, il va falloir réfléchir si ces amis-là sont vraiment des amis, ou comment ça peut continuer cette relation-là avec ces amis-là. Ok ? Donc ça, c'est besoin d'appartenance. Besoin suivant, c'est le besoin d'estime. Alors, l'estime, c'est lié à l'estime de soi. C'est comment est-ce que je me sens, moi ? Ça, avoir, en fait, c'est le fait d'avoir confiance et le respect de soi-même. Ok ? Est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que j'ai du respect pour qui je suis ? Alors, on peut se dire, bah ouais, c'est bon, je me respecte. De toute façon, je m'aime bien, faut bien que je mange, du coup je mange, je fais ça et tout. Ah, mais il y en a, c'est pas évident. Il y a des choses, dans nos vies qui fait qu'on, des fois, on se respecte même pas. Quand on regarde le premier sentiment, en fait, qui a été présent dans le cœur de l'homme, est-ce que vous savez c'est lequel ? Le premier sentiment que l'homme a ressenti, quoi. C'était là, la honte. En fait, il disait même à un moment, au tout début, c'est au début de la Genèse, là, j'ai pas la référence, mais il disait que l'homme et la femme n'avaient pas honte d'être nus. Parce qu'ils l'étaient tous les deux, mais ils en avaient pas honte. Mais ils l'ont eu après. Parce qu'ils ont péché, ils ont eu honte, et après, ils se sont cachés de Dieu. Et là, en fait, au niveau de leur estime de soi, ça en avait déjà pris un coup. Ils avaient honte d'eux-mêmes, de qui ils étaient. Et ça, c'est venu avec le péché aussi. Dernier point, c'est le besoin de s'accomplir. On cherche tous un sens à notre vie. Tous. On fait des choix qui nous déterminent et on veut accomplir des choses. En fait, c'est lié aussi à la base, à la mission à laquelle que Dieu nous a confiée au début. Et il dit d'ailleurs, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc non seulement il donne une mission, donc de se reproduire, de devenir nombreux et de remplir la terre, mais soumettez-la. Donc ça aussi, ça a à voir avec l'autorité, hein. Le besoin de sécurité, l'autorité qu'on peut avoir, c'est en lien aussi avec ça. Mais donc il transmet cela à l'homme et la femme. Avant qu'il transmette ça à l'homme et la femme, il a dit à l'homme, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. À ce moment-là, il n'y avait pas la femme. Et pourquoi ? Et d'ailleurs, quand on regarde le besoin pour les hommes d'être performants, d'accomplir des choses, en fait, il est lié plus en particulier aussi à ça. Nous, les gars, pas que les filles, elles n'ont pas besoin d'accomplir quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais pour les hommes, en particulier, on a besoin de trouver un sens à notre vie, on a besoin d'accomplir quelque chose, on a besoin de se réaliser. Et si on se réalise pas, il y a un truc qui va pas. On se sent quelqu'un quand on est performant. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, hein. Je suis le premier dans ce cas-là. À me dire, ok, moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai réussi quelque chose, ouais, je suis content, je suis fier de moi. Ça, c'était important pour moi. Et dans la psychologie des masculines, c'est assez important, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce besoin de s'accomplir, il est là quand même pour tout le monde, hein. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit à l'homme et la femme, reproduisez-vous, devenez nombreux. Du coup, il y avait un accomplissement à faire pour les deux. Mais il y avait un accomplissement aussi spécifique pour l'homme qui l'amène aussi à ces sentiments-là et à ce besoin-là plus particulièrement. Mais ça ne veut pas dire que la femme, elle n'a pas besoin de se sentir, de s'accomplir. Parce que tout ça, là, ces besoins-là, c'est pour tous. Ce n'est pas lié à l'homme. Hein. Toute résurgence féministe est à proscrire ici. Allez. Gardez bien ça en tête, là. Ces différents besoins-là. Donc, ces cinq besoins-là. Et puis, la question de l'identité. Pourquoi ? Parce que là, je vais vous poser tout de suite une question. Et je vais vous demander d'être participant de ça. Et... que tu peux passer. J'aimerais que vous preniez un bout de papier, chacun, et que vous puissiez écrire dessus ce que un besoin que vous, alors ce que tu vois qui te définit, d'accord? Ce que vous voyez qui vous définit et qui vous, et que tu voudrais qu'il change dans ta vie, ou un besoin dans ta vie qui n'est pas forcément bien accompli, ok? Un besoin que tu as toi là, et tu, pour lequel tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ok? Je vois qu'il y en a là juste qui hésitent à écrire, qui ne savent pas par où commencer. Si vous identifiez un besoin, par exemple, tu peux revenir juste sur la pyramide avant. Si vous sentez que vous avez besoin de, d'accomplir quelque chose et que vous ne sentez pas quelqu'un parce que vous n'avez pas accompli quelque chose, ça peut être un besoin, mais si pour ce besoin-là qui est en haut, ça ne va pas, juste réfléchissez si ça ne vient pas de, du fait que juste en dessous, ça ne va pas. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore accompli quelque chose que ça ne va pas, que ce besoin-là n'est pas comblé, ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas, est-ce que le fait que tu n'aies pas accompli quelque chose, c'est parce que en fait déjà tu ne t'estimes pas, d'accord? Et vous pouvez comme ça aller dans les besoins de plus en plus fondamentaux. C'est bon? Ok, alors, c'est bien de regarder un petit peu comment on est, mais en fait, c'est pas comme ça que ça va vraiment marcher. Parce que c'est pas ce que Jésus a voulu. Et on va regarder pas tant à comment toi tu te vois que à comment Jésus et comment Dieu te voit. Ok ? Est-ce qu'on peut passer ? Voilà. On va regarder à l'œuvre de Jésus, la grâce de Dieu. Ok, on vous en parle depuis plusieurs semaines, on vous en parle même déjà peut-être depuis que vous êtes petits, pour certains. Vous savez tous un peu ça. Et en fait, on va regarder un petit peu ensemble à ce que Jésus a accompli en venant sur terre, en mourant à la croix pour nos péchés. Alors la question c'est pourquoi il a fait cela ? Qu'est-ce que cela implique que Jésus soit ressuscité pour moi, pour l'humanité ? Est-ce que c'est juste pour que je sois sauvé ou est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à l'œuvre de la croix? Et c'est à ça qu'on va regarder, ok? Alors, si je pose la première question, pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pourquoi il est mort à la croix? À quoi ça sert? Pierre-Yves? À cause de nos péchés. Et puis? Pour qu'on soit sauvé. Alors, c'est quoi le... Alors, j'imagine, ça, c'est le verset qu'on connaît tous un peu... Comme il faut, c'est quoi le verset que tout le monde connaît à peu près ? Jean 3, 16, il dit quoi ? Alors j'ai entendu des bouts, c'était peut-être pas forcément clair, je vais juste le répéter si ça vous ennuie pas. Donc le verset c'est de Jean 3, 16, et il est dit que « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ». Ça veut dire que ce que Jésus est venu faire pour nous sur la terre, c'est pour nous sauver. C'est pas pour autre chose. C'est pour nous sauver. Ça, pourquoi il l'a fait ? C'est parce qu'il nous aimait. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce qu'il a fait à la croix, c'est la seule chose que ça implique pour nous ? Et on va voir que non. En fait, la grâce, grâce de Dieu, c'est pas simplement... pour qu'on soit sauvé et qu'une fois qu'on soit mort, on sache où on va et puis qu'on a cette espérance-là et c'est bon. Et puis après, on vit chacun notre vie tranquille. Non, 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 non. Déjà, c'est parce que Dieu nous aime. Alors, il y a ce verset-là, Romains 8, il dit « Oui, j'en ai... » C'est Paul qui dit ça aux Romains, il dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Ça, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Et il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous aimer. Rien, pas même nous-mêmes. Et ce qu'on va regarder, c'est ces quelques versets-là qui montrent que non seulement on est sauvé, mais aussi, alors ça c'est Paul qui dit ça aussi aux Colossiens, il dit, alors en parlant de Jésus, il nous a pardonné, Dieu, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle triomphant d'elles par la croix. Là, ce message-là, waouh, 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 waouh. En fait, Jésus, il n'est pas simplement venu pour nous sauver, il n'est pas simplement venu pour nous pardonner de nos péchés, il n'est pas simplement venu pour en fait annuler toute la condamnation qui nous revenait parce qu'on était appelé à être condamné à cause de nos fautes, parce que la Bible dit il n'y a pas un juste, pas même un seul, même si on se croit moralement bon, en fait non, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que non seulement il y a eu ça, mais il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle. Ça, c'est extraordinaire. Et ce verset-là et le reste de l'évangile, de ce qui est présenté dans les lettres apostoliques, eh bien, c'est ça la réalité de notre identité. Je vais vous expliquer. En fait, ce qui est dit là, c'est que dans la Genèse, qui c'est qui est venu nous amener et nous tenter pour qu'on pêche ? C'est le diable. Le diable, en fait, a profité du fait qu'on pêche pour nous voler l'autorité qu'on avait et pour nous voler les bénédictions, les privilèges que nous avions, que j'ai décrits à l'instant, qui sont devenus des besoins pour nous. Il nous les a volés. Ça, c'est la malédiction, en fait, du péché. C'est ça. Et à cause de ça, l'homme naît. Et s'il ne choisit pas de suivre Dieu, de donner sa vie à Christ, eh ben, il vit avec ça. Il vit avec ces besoins-là qui ne sont pas comblés. Ça, c'est la réalité. Sauf que, par l'œuvre de la croix, il y a tout qui change. Ce qu'on avait perdu, cette malédiction sur le péché, en fait, elle n'a plus lieu d'être. Ben oui, Jésus, il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il a pardonné toutes nos fautes, tous les péchés qu'on pouvait avoir écartés. Ben s'il n'y a plus de péché, ben il n'y a plus de malédiction. Puisque c'est le péché qui apporte la malédiction. Plus de péché, plus de malédiction. Plus de malédiction, les besoins deviennent des privilèges. Mais alors maintenant, dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère que là, vous suivez toujours bien, parce que c'est ce que je vous dis là, c'est peut-être pas forcément facile à comprendre. Je veux prendre du temps pour ça, parce que ça, c'est la base. Si vous comprenez ça, je peux vous garantir que votre vie, elle va être transformée en profondeur. Vraiment. Et je crois que Dieu veut faire une œuvre dans ce groupe, en particulier, sur la question de l'identité. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. C'est vraiment absolument nécessaire. Mais qui vous êtes, ce ne sera pas du coup par vos efforts que vous allez y arriver, mais simplement en regardant à Jésus-Christ et en s'appuyant sur Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'évangile. Mais le message de l'évangile, ce n'est pas une fois que je suis pardonné, c'est bon, tout est fini et puis on avance. Non, 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 non. Il y a des conséquences à l'œuvre de Jésus à la croix, et c'est carrément notre nature qui est transformée. Et on va regarder ça ensemble. Ok ? Alors si on regarde... On continue. Les conséquences pour mon identité, une nature transformée. En fait, il y a des conséquences extraordinaires au fait que tu choisisses de suivre Dieu et de dire « Oui, je crois en toi, tu es mort pour moi, tu es ressuscité pour mes péchés et par toi, Jésus, je suis pardonné, je deviens libre. » Il y a des conséquences extraordinaires. Déjà, quand tu donnes ta vie à Dieu, je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais en particulier, moi aussi, quand je me suis fait baptiser, je me suis senti léger. Pas que je faisais plus que 20 kilos, hein, non, non. Mais que là, c'était, j'étais tranquille. J'étais dans la paix. Et on se sent léger quand on est pardonné de nos péchés. Il n'y a pas quelque chose qui est lourd en nous. Et ça... C'est la base déjà. On est libre. On est libre du péché. En fait, ce poids-là qu'on peut avoir, en fait, quand on donne notre vie à Dieu et qu'on accepte ça, eh ben, on est libre. Et ce poids qui est sur nous, il disparaît. On va regarder en fait aux premières conséquences. Donc, je disais une nature transformée. Pourquoi ? Parce que dans 2 Corinthiens, Paul, il dit ça. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On n'est pas comme avant. Notre nature, elle est carrément transformée. Et Paul rajoute aussi, alors dans plusieurs parties, il le dit à de nombreuses reprises, pour bien qu'on l'apprime d'ailleurs, et des fois on a du mal à le faire, c'est de la part de Paul aux saints qui sont à, donc dans les différentes villes, Éphèse, Philippiens, par rapport à ces références-là, il dit à tous les saints. Est-ce que ça veut dire qu'il s'adresse que à ceux dans l'église qui sont saints ? Non. Il s'intéresse à tous ceux qui sont dans l'église et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc en fait, toi, moi, on est saints. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est non seulement qu'on soit sauvé, mais qu'on soit aussi sanctifié. Alors, Paul parle aussi qu'il y a un processus de sanctification. Un processus, ça veut dire simplement que on est appelé à devenir saint, à continuer à devenir saint, à grandir dans la sainteté. La sainteté, c'est être mis à part pour Dieu. C'est pas être parfait, hein. Attention. Est-ce qu'on peut dire qu'on est pécheur si on est saint ? Non. Souvent on dit, d'ailleurs moi c'était hier, je priais avec un groupe de personnes et puis à un moment, oui merci Seigneur pour nous qui sommes d'humbles pécheurs. Je me suis dit, oh là, mon ami t'as pas compris. T'as pas compris parce qu'en fait, si on s'identifie comme ça, mais en fait on n'est pas pécheurs, on n'est plus pécheurs. Ben oui, on est des saints. On est devenu saint. Par contre, on peut continuer à pécher parfois. Ça nous arrive. Mais on est des saints qui pêchent. Alors maintenant, la question c'est comment, une fois qu'on est saint, on peut arrêter de pécher. Et souvent, le problème... je vais m'étendre un petit peu là-dessus, parce que souvent, le problème, en fait, on comprend pas. Avant qu'on donne notre vie à Dieu, des fois, on fait les choses par nos propres efforts. On aime bien faire ça. On dit, ouais, ok, je vais être moralement quelqu'un de bien, je vais faire les choses bien comme il faut. Du coup, et puis après, on donne notre vie à Dieu, parce qu'on se dit, bah ouais, en fait, ça a pas marché. Sauf que après, sur le processus de la sanctification, sur le fait de devenir saint, bah, on retombe à faire des efforts. Mais on n'a rien compris, en fait. Si par grâce nous sommes sauvés, et nous sommes rendus saints, mais c'est aussi par grâce que nous pouvons continuer à rester saints. C'est pas par nos efforts. Attention, effort ne veut pas dire ne pas faire de choix. Le fait de ne pas faire d'effort ne veut pas dire le fait de ne pas faire de choix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu es saint, du coup, mais que tu continues à pécher, et que tu le fais volontairement, Paul il dit à... Non, c'est dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que personne... Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup aujourd'hui, alors que même vous avez été sauvés, vous avez donné votre vie à Dieu, sauf que comme vous refaites les choses par vos propres forces, vous privez de la grâce de Dieu. Vous privez de la grâce de Dieu. Ben oui. Parce que le processus de sanctification, c'est par la grâce de Dieu, c'est pas autre chose. Pas autre chose. Et pourquoi parfois on se retrouve à tomber et à abandonner et parfois même, il y en a qui ont abandonné Dieu, mais en fait, c'est qu'ils ont pas compris la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas juste un instant comme ça. Une fois que vous êtes sous le bénéfice de la grâce de Dieu, c'est permanent et c'est appelé à se renouveler à chaque instant. Mais cette grâce de Dieu, elle est obtenue comment ? Bah quand je suis en relation avec Dieu. Du coup, c'est pas un effort. Quand t'es avec ton meilleur ami et que tu veux aller le voir, est-ce que c'est dur d'aller le voir ? Quand t'as quelqu'un que t'aimes absolument, est-ce que c'est dur d'aller le voir ? Non. Mais c'est pas un effort, du coup, de s'approcher de son meilleur ami. C'est pas un effort que de s'approcher de Dieu. Alors évidemment, dans la réalité, il y en a qui ont du mal à s'approcher de Dieu. Et si je commence pas à expliquer ce que je suis en train de dire, il y en a qui vont commencer à culpabiliser. Ouais, j'arrive pas à m'approcher de Dieu, même si c'est pas un effort, et puis je continue à culpabiliser encore plus. Non, non, non. C'est pas ça. C'est dur. Parfois c'est dur, mais c'est juste un choix. Sauf que ce choix-là, en fait, on s'approche pas de Dieu souvent, pas parce que on n'a pas envie, comme ça, naturellement, mais parce qu'on se sent peut-être pas assez bien. Un peu comme si on avait trahi notre ami, et que si on a trahi notre ami, bah, c'est peut-être un peu dur de revenir vers lui. Et souvent, c'est ça. Veillez que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vraiment. Si, y a quelque chose que vous pouvez garder, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Personne. Que ce soit concernant du coup la sainteté, le fait d'être sauvé, parce que peut-être il y en a certains qui n'ont pas encore choisi de donner leur vie à Dieu. Mais pour ceux qui l'ont donné, vivez dans cette grâce de Dieu. Mais ne vous privez pas de la grâce de Dieu en retournant à votre péché. En fait, vous êtes devenu libre au péché. Donc, cette liberté-là et l'autorité que vous aviez perdue, elle est restaurée. Du coup, vous êtes plus sous l'autorité du péché, vous avez autorité sur le péché. Mais souvent, on vit comme si, en fait, on était soumis au péché. Non, j'y arrive pas. Paul, il le dit même dans le début de sa lettre, enfin, chapitre 7 de sa lettre aux Romains, il dit, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que j'aimerais. Et la loi de Dieu, et il dit, mais c'est par la loi de l'esprit que je suis sauvé. Mais c'est quoi la loi de l'esprit? C'est la grâce. Mais comment on l'obtient? Comment on tombe sous cette loi de l'esprit? C'est juste en s'approchant de Dieu et en venant tel que nous sommes. Et ça, c'est pas appelé à être un effort. C'est juste, on vient juste là, bah Seigneur, ok. J'abandonne. J'abandonne et je te laisse agir. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vraiment, je vous en supplie, ne le faites pas. Il y a d'ailleurs Paul qui dit dans 2 Corinthiens 3, 18, parce qu'on est libre au péché. Pourquoi? Je vous ai dit ça, mais quelle est la justification? C'est là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mes amis, vous êtes libres. Vous n'êtes plus asservis par le péché, vous êtes libres au péché. Et ça, vous avez besoin de comprendre ça pour votre identité. Parce que tant que vous ne comprenez pas ça, en fait, ben, le péché peut vous dominer. Et c'est ce que le diable veut vous faire croire. Vous savez, en fait, ce que le diable veut surtout faire, c'est pas vous faire pécher. Le diable, ce qu'il veut prioritairement vous faire, c'est de vous empêcher de rentrer dans l'identité que vous avez. Ça, c'est la mission du diable. La mission du diable, c'est de vous empêcher de savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce que si vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, waouh, on va le voir ensemble là tout à l'heure. Mes amis, le diable, il pourra plus rien faire. Ben ouais. Parce qu'on est libre au péché. Alors, il y a deux choses qu'on retrouve. Donc, deux conséquences qu'on a. Je vais commencer par le fait qu'on ait un nouveau. Il y a la question du nouveau nom et de retrouver l'identité perdue. Alors, le nouveau nom. Je vous avais dit au début que vous n'avez pas choisi votre nom. Vous l'avez, c'est comme ça. En fait, dans l'Ancien Testament, il y avait une particularité, c'est que pour les Juifs, en fait, le nom de l'enfant était très important. Si bien que au début, alors que l'enfant naissait, on ne lui donnait pas forcément un nom. Parfois, on attendait quelques années. Alors, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à combien de temps on attendait. Ça pouvait être un an, peut-être un peu plus, mais on pouvait attendre un peu de temps avant qu'on donne un nom à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on attendait en fait de voir un peu la personnalité de l'enfant. Parfois, on donnait aussi un nom en raison des circonstances, des événements qui se produisaient autour de nous. Donc, les noms, en fait, avaient une valeur très particulière à l'époque. Et donc, les parents pouvaient attendre que le bébé grandisse. Et au début, avant que le bébé ait un nom, En fait, on l'appelait souvent Bar. Bar parce que, en fait, ça signifie fils de. En hébreu, ça signifie fils de. Et on appelait par exemple, un des exemples que vous connaissez peut-être bien, c'est Bartimée. En fait, c'est fils de Timée. Timée, c'est le nom du père et c'est le fils de Timée. Et vous savez qu'il y a aussi un homme qui s'appelait Barabbas. Et Abbas, ça veut dire père. Et donc ça veut dire qu'en fait Barabbas, c'était fils d'un père. Et ça, c'était le nom qu'on donnait généralement aux orphelins. Parce que en fait, on ne savait pas qui était le père. Du coup, on disait bah, fils d'un père. On ne sait pas qui c'est. Et Barabbas, si vous connaissez un peu l'histoire, en fait, c'est le gars qui aurait dû être tué, qui aurait dû être crucifié, et qui finalement a été libéré. Et qui c'est qui a pris sa place? C'est Jésus. En fait, le fait que Dieu change le nom d'une personne dans la Bible, ça indique en fait qu'il prend en compte l'identité des personnes et qu'il est même prêt à changer le nom des personnes pour montrer combien il aime ces personnes-là et combien sa puissance est grande. Quelques exemples. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob, ça signifiait usurpateur, manipulateur. En gros, Jacob, c'était un vaurien. Le gars, on ne pouvait pas lui faire confiance. Et il s'est fait appeler Israël, celui qui lutte avec Dieu. Vous connaissez aussi Simon, son nom, c'est devenu Pierre. Et Jésus a d'ailleurs changé son nom là et il dit, tu es cette pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il est en train de mentionner à Pierre que ça allait devenir un roc, pas un gars au cœur dur, mais un roc pour d'autres. Il a répondu à la prière aussi de Jabez. Jabez, ça signifie douleur. Le gars, on l'appelle comme ça, douleur. Super, hein? Dieu, en fait, a répondu à sa prière. Jabez priait, dit, Seigneur, étends mes limites, bénis-moi, j'ai besoin de ta bénédiction. Et Dieu a répondu à ça. Il n'a pas changé son nom, mais il a vu que son nom était pour lui synonyme de malédiction. Et il a changé ça parce qu'il l'aime. Voilà pourquoi il est important que vous compreniez que, pas que Dieu va changer votre nom demain, non, 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 mais qu'il vous aime tellement qu'il est même prêt à montrer sa puissance en vous transformant de l'intérieur, transformant votre nature profonde. Et c'est ça l'œuvre de la croix. Ok? Ça, c'est une des choses des plus importantes. Il dit aussi que donc je retrouve aussi l'autorité qui est perdue. Rappelez-vous là de la pyramide tout à l'heure. Vous voyez là tous les points qui étaient là, ces besoins-là. Par l'œuvre de Jésus à la croix, le péché est tombé, la malédiction du péché est tombée. Du coup, ces besoins-là peuvent devenir des privilèges à partir du moment où tu les saisis dans ta vie. Mais si tu les saisis pas, en fait, ben, tu n'auras rien. Si le lion il pense qu'il a un petit chat, il va faire miaou. Ah mais je dis ça pour rire, hein. Ça fait rire, mais l'image elle est là, hein. Vous avez besoin de comprendre que vous avez autorité. Regardons ce passage-là dans Apocalypse. Il est dit, donc c'est Jean qui exprime ça, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits. Donc ça fait référence au Saint-Esprit. Qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. Alors là, j'ai souligné les deux passages qui m'intéressaient, c'est qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Et vous savez à quoi était appelé le Messie dans les livres prophétiques? À être roi et prêtre. En fait, ce que Dieu veut nous communiquer, c'est pas simplement qu'on devient saint, mais c'est qu'on est participant de son œuvre. Et comment on devient roi et on devient prêtre avec lui. Alors aujourd'hui, je vais pas pouvoir m'étendre beaucoup là-dessus, parce que ça prendrait un message entier, voire plusieurs. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire plus tard, j'espère. Je pense que je vous en parlerai d'ailleurs. Mais on a besoin de comprendre que cette autorité-là nous est restituée. Sauf que on se comporte pas comme des rois ni des reines, souvent. En fait, cette autorité-là, qu'est-ce qu'elle nous donne déjà par rapport aux besoins? Elle nous donne déjà de la sécurité. Et face aux choses qui peuvent nous faire penser qu'on n'a plus de sécurité, parce qu'on est dans un pays, on se dit ben, on est en France, il y a eu des attentats dernièrement, à l'école, est-ce que je peux faire confiance à mes amis? Est-ce qu'on va pas me jouer des tours? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Est-ce que dans mon travail, on va pas? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais réussir mes études? Est-ce que j'ai une assez bonne moyenne pour pouvoir m'en sortir? Souvent, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on manque de sécurité. Alors pas que du coup, en claquant du doigt, ça y est, on va avoir des bonnes notes. Hop, on va se sentir en sécurité. On va se sentir en sécurité, on va dominer les autres. Non. Mais par contre, ce qu'on est appelé à faire, c'est à nous appuyer sur Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de la sanctification, ce que je vous disais, hein, la puissance de la grâce, c'est pas de faire, une fois qu'on est sauvé, qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Non. C'est qu'on s'approche de Dieu. Et parce qu'on s'approche de Dieu, on a autorité. Et si bien que, même si on vit des choses difficiles, parce qu'on va en vivre, il n'est pas dit que parce qu'on allait choisir Dieu, on allait vivre dans un monde de bisounours et puis c'est bon. Non. On peut souffrir. Le truc, c'est que face à nos souffrances, on va savoir comment réagir. On va réagir totalement différemment. Vous savez, un exemple très concret, on va prendre la différence entre un roi et un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui subit les circonstances, qui subit les ordres du maître, qui subit ce qu'il doit faire. Un roi, c'est lui qui commande les circonstances. C'est lui qui commande ce qui doit être fait. On n'est pas appelé à vivre et à subir les choses comme un esclave. Non. On est appelé à prendre autorité dessus. C'est ça la réalité. Et mes amis, c'est vraiment une bénédiction. Et on a besoin de bien comprendre ça. On a besoin de changer de mentalité. On a besoin de changer de mentalité, de passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de conquérant. Parce qu'un roi, c'est un conquérant. Sauf que face à nos circonstances, on se comporte souvent comme un esclave. On subit les choses. Et souvent même, on a un peu c'est terrible parce que le diable veut tout faire pour nous faire tomber. Et en fait, souvent quand on se dit on est conquérant et tout ça, non, faut que je sois humble. Ben non, Dieu m'appelle à être humble. Je suis pas appelé à être un conquérant. Un chrétien, ouais, c'est un petit bonhomme, une petite fille et tout, il est gentil quoi. Il est gentil. Généralement, en plus gentil aujourd'hui, ça veut dire un peu bébête. Sauf que non. Avoir autorité, ça veut pas dire être orgueilleux. On est appelé à être fier en Jésus-Christ, mais on n'est pas appelé à être orgueilleux. Mais ça, c'est un équilibre qui est terriblement difficile parfois à tenir. Et on a vraiment du mal parce qu'on ne sait pas comment se placer. Mais en fait, on ne sait pas comment se placer parce qu'en fait, la Bible nous le dit, mais on ne sait pas en fait ce que la Bible dit par rapport à ça. Et on a besoin d'être affermi là-dedans, on a besoin d'être clair avec ça. Et si on est clair avec ça, on ne bouge pas. Moi, je suis fier en Jésus, mais je veux rester humble. Et Seigneur, apprends-moi, continue à me garder dans l'humilité, et je veux rester humble, mais j'ai autorité. S'il y a une maladie qui se présente et que j'ai des amis qui sont malades, je vais prier pour eux. Non, je ne suis pas d'accord. Le diable, il n'y a pas d'autorité là-dedans. Non, je veux prier pour la personne. Parce que l'autorité, elle vient de Jésus-Christ. On a besoin de changer de mentalité. C'est vraiment une révolution. Parce que, en fait, quand on a une nouvelle nature, les conséquences d'une nouvelle identité, c'est qu'on apprenne. L'important, c'est qu'on apprenne à savoir comment se comporter maintenant. Souvent, il y a même des schémas dans notre tête. Imaginez un petit poisson dans un aquarium qui est lui-même dans un océan. Si un jour on arrive à lui enlever l'aquarium comme ça, il a été tellement habitué longtemps à rester dans cet aquarium-là que pour qu'ils sortent de cette zone de l'aquarium là et qu'ils commencent à regarder, ah mais il y a un océan autour de moi. Ben, parfois il faut des années, et peut-être même ils n'y arrivent pas. Ben, quand on regarde le peuple d'Israël, et on pourrait s'y intéresser plus spécifiquement, c'est exactement ça, hein. Il avait toujours la mentalité d'esclave. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne voulaient pas s'approcher de Dieu. Quand ils sont arrivés dans le désert, en fait, en quelques années, ils auraient dû passer, ils sont restés 40 ans. Moïse, lui, avait été habitué, en fait, il avait une mentalité de roi puisqu'il avait été élevé à la cour du pharaon. Du coup, il n'avait pas du tout la même manière de penser que les Israélites. Les Israélites étaient dans une mentalité d'esclave. Ils subissaient les choses, ils suivaient ce qu'on leur disait. Si tu dis, tu vas à droite, bah, ouais, c'est bon, je vais à droite. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs. On fera tout ce que tu feras. Toi, Moïse, approche-toi du Dieu, approche-toi de la montagne. Monte sur la montagne. Moi, nous, on fera ce que tu veux. On fera ce que tu veux. On te suit. Oh là là. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris qui ils étaient. Ils n'avaient rien compris. Vraiment, comprenez ça. C'est essentiel. Une autre conséquence, on retrouve notre relation perdue. Je vais pas avoir beaucoup de temps là. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc ça, c'est aussi un des points. C'est lié au besoin d'appartenance qui est comblé. Moi, ce que j'aimerais, c'est passer à la dernière partie sur la question de l'estime. Alors, sur la question de l'estime, vous aviez vu le quatrième besoin là, juste avant le sommet de la pyramide. Il y avait le besoin d'estime. Besoin de savoir de s'estimer, d'avoir une bonne estime de soi. En fait, quand on regarde à Galates 4, 6, 7, si ça arrive, ouais, il est dit: je suis un héritier de Dieu parce que je suis fils de Dieu. Waouh, ça c'est une bénédiction. Et Psaume 139, verset 14: je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est pas que merveilleuse, en plus c'est si merveilleuse. On peut se dire, ouais, celui qui a écrit ça, il a un peu la grosse tête. Non, pas du tout. Il sait qui il est. C'est juste qui il est. On a besoin de comprendre quelle valeur on a, être fils et fille de Dieu. Ok? Je vais demander à Elodie si tu veux bien t'approcher, parce que en fait, elle va nous partager son témoignage. Merci, Elodie.
Bon, ben, je dois parler de la créature si merveilleuse que je suis. Merci Seigneur. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la grosse tête comme ça, hein, en vrai. Oui, en fait, du coup, je partage avec vous mon témoignage, vite fait. Donc, oui, voilà, moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Vraiment, c'est une chance, hein, les jeunes qui sont dans une famille chrétienne. C'est un privilège que vous avez. Donc moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'étais dans une famille catholique, non pratiquante. Donc, j'ai eu le baptême, la première communion, tout ça. Pour moi, c'était une occasion de faire la fête et puis voilà, ni plus ni moins. On me parlait de Dieu, je connaissais Dieu. Enfin, je pensais connaître Dieu, mais je connaissais pas en fait. Donc, j'avais ma petite vie tranquille. Je mettais tout sur mes études. Je misais tout sur ma propre intelligence pour arriver dans la vie. Et je me disais, ben, quand je serai grande, je veux avoir un bon travail, gagner plein d'argent. Et puis voilà, c'était mon objectif dans la vie. Sauf qu'à 18 ans, ben, tout s'est effondré. Je devais passer mon bac. Je n'ai pas passé puisque j'ai eu un très grave accident. Vous avez tous remarqué que je porte des cicatrices. Donc, c'est dû à un accident que j'ai eu. J'ai reçu un cocktail Molotov. Du coup, j'ai été brûlée très gravement. Et suite à cette brûlure, ouais, comment dire ça? J'ai eu 7 mois et demi d'hospitalisation où il a fallu. En fait, on se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil, comme on dit, et que on n'est rien. Donc, à 18 ans, j'étais vraiment comme un petit bébé. On devait tout faire pour moi. Je ne marchais plus, je ne mangeais plus, je ne parlais plus, je ne faisais rien. Et je connaissais pas Dieu. sauf qu'il y a des chrétiens qui sont venus me voir à l'hôpital et qui m'ont parlé de Dieu, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu, de l'amour de Dieu pour moi et surtout de ce que Dieu pourra faire pour moi. Et c'est vrai que j'étais dans un état où je comprenais pas, puisque je vous ai pas donné les détails de ma vie, de mon enfance, mais dans mon cœur, il y avait vraiment un vide, puisque on a un besoin de sécurité que moi, je n'ai pas eu. Je n'ai pas trouvé dans ma famille, je n'ai pas trouvé près de mon père, je n'ai pas... Donc, j'ai essayé de combler dans des relations qui étaient vaines, mais j'avais vraiment ce vide dans mon cœur et à cette période-là, j'étais vraiment au plus mal. Et pour moi, sincèrement, je me disais que la seule issue, c'était la mort, clairement. Et donc, on m'a parlé de Dieu, on m'a parlé de l'amour de Dieu. Et j'en parlais tout à l'heure, il y a une chrétienne qui m'a donné un chant dans la chambre d'hôpital. Elle m'a dit, tiens, écoute cette chanson. Et c'est le chant de Maggie Blanchard. Cette fameuse chanson, Il agira. Si vous avez l'occasion, les jeunes, écoutez-la. Cette chanson, je l'ai écoutée. Et à force, les paroles se sont vraiment imprégnées dans mon cœur. À force d'écouter cette chanson-là, c'est des mots qui résonnaient dans mon cœur. Et là, j'étais vraiment, c'était comme un face-à-face avec Dieu. Et là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu existes, si tu es là, si tu peux faire des choses pour moi, alors viens, manifeste-toi. Et la promesse que je te fais, Seigneur, c'est de te servir, c'est de dire ce que tu as fait pour moi, c'est de parler de ce que tu as fait. Et à cet instant, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais une paix dans mon cœur qui, je me suis vraiment sentie saisie par cette paix. Et après, j'ai vu comment les jours suivants, ben, rien n'avait changé physiquement, mais j'étais joyeuse, j'étais heureuse, j'étais contente. Et au fur et à mesure, ça s'est manifesté aussi physiquement, mais j'ai commencé à me relever petit à petit. J'ai commencé à reprendre des forces. J'étais vraiment comme un bébé. Je ne pouvais pas marcher. Quand je faisais un pas, c'était une grande victoire. Et je peux vous assurer qu'au fur et à mesure, Dieu m'a permis de me relever. J'ai repris mes études, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, j'ai continué mes études. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à Dieu. Vraiment, les jeunes, je veux vous encourager. J'ai vécu 20 ans dans le monde, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien. Tout va vous sembler beau, tout va vous sembler magnifique. Vous allez penser qu'il y a des choses merveilleuses, c'est des mensonges, il n'y a rien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon seul regret, j'ai dit, Seigneur, je regrette de ne pas t'avoir connu plus tôt. Mais Dieu sait pourquoi. Vraiment, je vous encourage, il n'y a rien dehors. Restez dans la main de Dieu, vous êtes dans la meilleure position. Amen.
Merci beaucoup. Wow, merci vraiment Elodie. En fait, elle a retrouvé l'estime d'elle-même. Peut-être tu te sens pas capable. Peut-être tu te sens nul, tu te sens pas doué. Tu te dis que tu n'y arriveras pas, tes études, ça se passe pas forcément comme tu veux, t'as pas les notes que t'aimerais. Tu n'arrives pas vraiment dans ta relation avec Dieu. Tu te dis, bah ouais, c'est beau, je vois les autres prier, mais moi, j'y arrive pas. Je vois les autres louer, mais moi, j'y arrive pas. J'ai l'impression que les autres, ils ont leur vie qui se transforme, mais pas moi. Tu te dis que t'es pas quelqu'un de bien, du coup, tu mérites pas de toute façon les choses. De toute façon, tu pêches. Les échecs que tu as, bah c'est ta faute. T'as fait n'importe quoi. Peut-être que tu te dis tout ça. Peut-être que tu penses que t'as pas de valeur. Mais vraiment, quand vous vous rendez compte de la grâce de Dieu et du fait qu'il vous appelle fils et fille de Dieu, ça change tout. C'est appelé à tout changer dans votre vie. Si vous croyez que Dieu est Dieu et que vous avez déjà donné de votre vie à Dieu, croyez que tout ce que la Bible dit est vrai et que ce qu'elle dit pour vous est absolument vrai. C'est pour vous, c'est des bénédictions. Et ces bénédictions-là, en fait, elles vous sont données directement. Vous êtes appelés juste à les saisir. Et parfois, en fait, on perd tellement de temps dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne, parce qu'en fait, on saisit pas ces bénédictions-là. On saisit pas qu'il en est en Christ. On saisit pas qu'il y a une œuvre tellement merveilleuse qu'on a de la valeur. L'estime, à cause du péché, l'homme et la femme avaient perdu leur estime personnelle. Ils avaient honte d'eux. Vous rappelez le sentiment qu'ils avaient ? Ils avaient honte d'eux. Peut-être que tu as honte de toi, mais Jésus est venu pour restaurer ça. Et c'est pas simplement le fait que tu sois sauvé quand tu seras mort, mais c'est tout de suite, là. Saisis-le maintenant. Passe pas à côté, vraiment, mais vraiment. Et ça, mes amis, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir vivre en vous disant « c'est bon, je crois en Dieu et puis après je fais ma vie ». Non, vous avez besoin de vous approcher de Dieu, vous avez besoin de revenir à Dieu. Vous avez besoin à chaque fois de revenir à la parole de Dieu parce que le diable, en fait, il va tout faire, tout, absolument tout pour vous voler l'identité que vous avez. Et quand il vous aura volé l'identité, ben vous allez faire quoi ? Vous allez pécher. Le péché, c'est juste une conséquence. Mais le diable, en fait, il a réussi quand il vous avait fait croire que vous n'étiez pas ce que vous êtes appelé à être. Vous êtes appelé à être à régner, à être des rois, des reines. Vous êtes appelés à être libres. Vous êtes appelés à être des créatures merveilleuses. Ça, vous êtes appelés à être comme ça. Faut que tu te rappelles de ça. Ce message-là, faut que tu t'en rappelles. Faut que tu lises cette parole. J'ai préparé des feuilles dessus. Il y a toute une liste de versets sur qui tu es. Tous les versets commencent par « je suis ». « Je suis ci, je suis ça ». Vous avez une page complète. Et au dos de la feuille, vous avez une page complète qui définit les conséquences de la grâce. Essayez de retirer le maximum de versets possibles pour que vous puissiez savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Ça, je sais pas, vous faites quelque chose, vous l'accrochez dans votre chambre, vous le gardez près de votre chevet, vous le lisez, vous le relisez, vous le buvez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous le gardiez en tête précieusement. Mais vraiment, c'est essentiel. C'est essentiel. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur ce que t'as écrit sur ta feuille. Ce que t'as écrit là. Moi, ça m'intéresse pas de savoir ce que c'est parce que c'est entre toi et Dieu. Mais ce besoin-là que tu as là, à l'écoute de ce message-là, à l'écoute de ce que Dieu voulait te communiquer, mon ami, viens le placer devant Dieu. C'est pas comment toi tu te vois qui est important, mais c'est de venir à Dieu. Viens à Jésus-Christ, regarde à Jésus, il n'y a pas autre chose, pas autre chose. Regarde à Jésus, approche-toi de Jésus, c'est tout ce que tu as à faire. Et c'est pas une question d'effort, c'est juste, veillez mes amis à ne pas vous priver de la grâce de Dieu. Ne vous en privez pas, je vous en supplie, ne vous en privez pas. Est-ce qu'on peut reprendre, un chant ou deux? J'aimerais qu'il y ait le groupe et j'aimerais prier pour vous. En fait, ce que j'aimerais que tu fasses là, avec ce bout de papier là, quand tu vas le remporter chez toi. Suivez-moi bien. Quand tu vas le rapporter chez toi, j'aimerais que tu écrives sur ce bout de papier là ce que Jésus fait dans ta vie, ce que Jésus peut faire dans ta vie avec ça là, avec ce besoin qui est pas comblé. J'aimerais que tu puisses vraiment écrire ça. On va pas le faire tout de suite parce qu'on a plus de temps là. Le temps s'écoule vite. Mais vous avez besoin, gardez là ce papier là et reprenez-le ce soir chez vous, tranquillement. Et ça va changer les choses. Vraiment. Qu'on puisse louer ensemble, je vais prier pour vous alors que la musique commence simplement, je vais prier pour vous. J'aimerais vraiment que vous soyez bénis, que vous puissiez réaliser pleinement l'identité que vous avez. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu vois, Seigneur, l'identité que tu nous appelles, que tu veux nous donner. La puissance de la croix est merveilleuse. Ton œuvre, Jésus-Christ, est merveilleuse. Et c'est pas simplement le fait que je suis sauvé, c'est que je suis une nouvelle créature. Je suis fils et fille de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis libre du péché. Seigneur, je suis saint. Père, je veux me rappeler de ces paroles et les garder dans mon cœur très précieusement. Père, je t'en supplie, Seigneur, viens convaincre nos cœurs. C'est ton Saint-Esprit maintenant qui agit ce soir. Père, c'est ton Saint-Esprit. C'est pas une parole d'homme, c'est ton Saint-Esprit qui agit. Et Père, je te prie de convaincre les cœurs ce soir. Que tu viennes transformer les cœurs, Seigneur, et que tu puisses permettre à chacun de réaliser qui il est en Christ. Père, je te prie, Seigneur, de venir transformer. Que ces besoins que nous avions, Seigneur, ne deviennent plus des besoins, mais des privilèges qui sont restaurés en Christ, parce que notre identité est retrouvée, notre autorité est retrouvée, notre relation avec toi est retrouvée, notre estime personnelle est retrouvée en toi. Oh, merci mon Dieu pour l'œuvre que tu vas faire, Seigneur. Même si ça prend du temps, Père, je me réjouis pour ce que tu vas faire, parce que tu transformes les cœurs ce soir. Père, viens vraiment, je te loue, oh Dieu, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Père, amen, Jésus.